Est-ce que tout le monde a amené? Donc, les différents types de matines et de vêpres de semaine. Et vous reprenez aussi la feuille avec les cycles liturgiques. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, un peu plus sur l'ordo. Et on va reprendre la notion de cycle liturgique. Donc je vous avais dit que pour nous, sur Terre, les cycles sont des cycles naturels qui dépendent donc du Soleil, de la Lune et de la rotation de la Terre sur elle-même, ce qui fait qu'on a des journées, des mois et des années. Et donc, on a aussi donc la semaine qui nous vient de la Genèse, qui nous vient de Dieu. Et donc la création du monde, enfin la semaine est liée à la création du monde. S'il y a une question après sur la semaine de la création, vous pouvez toujours me demander, mais c'est un petit peu hors sujet, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Par contre, donc, le premier cycle qui nous intéresse, c'est le cycle journalier. Et liturgiquement, comme j'avais dit, ce cycle journalier commence au vêpres, c'est-à-dire au coucher du soleil. Au coucher du soleil, donc, on regroupe deux offices qui sont none, la neuvième heure, et vêpres. Ensuite, les moines dînent. Si c'est en carême, c'est leur seul repas par jour après les vêpres. Sinon, ils ont droit à deux repas par jour après la liturgie et après les vêpres. Sachant qu'en carême, il n'y a pas de liturgie.
Même pas les présanctifiés.
Les présanctifiés ont lieu après les vêpres. Donc, ils mangent après les vêpres.
C'est quand même une liturgie, les présanctifiés.
Oui, mais elle a lieu après les vêpres. Donc la liturgie des présanctifiés, normalement, est célébrée le soir, après les vêpres. Donc ils jeûnent toute la journée. C'est pour ça qu'elle est après les vêpres, hein, cette liturgie, parce que pour ne pas rompre le jeûne. Ensuite, après le dîner, vous avez les complices. Et après, les moines vont se coucher et ils se lèvent au milieu de la nuit, donc pour célébrer l'office de minuit, matine et prime qui sont ensemble. Après, donc, il y a tierce et sexte avant la liturgie. Enfin, un tierce sexe avant la liturgie. Bien que la liturgie, tierce sexe sont faits à part. Et prime.
Et après, il ne retourne pas se coucher.
Là, il commence à bosser.
Après quoi?
Après matine.
Après les primes.
Non, après, ils vont travailler. Après, ils vont travailler. Hein, ils se reposent éventuellement l'après-midi.
Ils le font vers 3 heures.
Ils le font vers 3 heures à peu près.
Quoi?
Ils dorment entre
les combis. Oh, ben non, ils se lèvent vers 4 heures.
Vers 4 heures.
4 heures du matin, quoi. 4 heures du matin.
Ils dorment entre combis et l'office de midi.
Ils font vers 4 heures, pas à midi.
Et puis ils se reposent l'après-midi aussi, un petit peu. Voilà. Et donc, les offices sont contenus, les textes fixes de ces offices sont contenus dans le livre des heures. Donc ça, ce sont les textes qu'on utilise tous les jours. Ensuite, vous avez donc le cycle qu'on appelle le cycle pascal des huit tons. Donc pascal, le Pâques est le début et l'aboutissement de ce cycle pascal, comme dimanche est le début et l'aboutissement de la semaine. D'accord ? Donc toutes les semaines, nous célébrons Pâques le dimanche. Donc là, les textes sont contenus dans ce qu'on appelle le grand octoèque. Hein, octoèque, donc en grec, ça veut dire huit tons. Octoikos. Donc, un ton, un ton commence le dimanche, c'est-à-dire samedi soir aux grandes vêpres, et se termine donc le samedi suivant après la liturgie, quoi. Hein, où normalement, c'est à la 9e heure. Donc chaque jour, à part donc dimanche, dans l'octoèque, il contient deux thèmes chaque jour. Le lundi, le mardi, ils ont chacun deux thèmes développés dans l'octoèque. Donc ce sont des textes qui sont toujours sur le même thème. Le lundi, ça sera toujours le même thème. Donc le lundi, c'est la pénitence et les anges. Mais tout ça, c'est marqué sur votre feuille. Hein, donc... Le mardi, c'est la pénitence et Saint Jean-Baptiste. Le mercredi, c'est la croix et la mère de Dieu. Le jeudi, ce sont les apôtres et Saint Nicolas. Le vendredi, c'est pareil que le mercredi, c'est-à-dire c'est la croix et la mère de Dieu. Et le samedi, c'est la croix et la bannière. Non, c'est tous les... C'est tous les saints et les défunts. Donc, dans l'octoèque, vous avez tous les textes nécessaires pour célébrer un office de type non festif pour toute la semaine. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de méné, eh bien, vous pouvez quand même célébrer tous les offices de la semaine. Tous les textes y sont. Ne pas confondre avec l'ison.
Avec
l'ison. Tous les textes y sont.
Ah,
Donc le samedi est un jour particulier dans la semaine. Donc pour l'Ancien Testament, le samedi était le jour le plus célébré dans la semaine sur l'ordre de Dieu. C'est le repos sabbatique et c'est une grande fête jusqu'à maintenant pour les Hébreux. Et pour les chrétiens, c'est resté un jour de fête. C'est resté un jour de fête. On célèbre la liturgie eucharistique le matin, donc c'est un jour où on mange deux fois systématiquement toute l'année. Il y a un seul samedi où on ne mange pas, c'est le samedi saint. Et en plus, il est appelé dans l'ordo la clôture du ton, c'est-à-dire que là, il y a des prescriptions spécifiques. Pour la clôture du ton, par exemple, on chante le théotokion dogmatique du ton, qui est une stichère très particulière. On chante les théotokia des tropères aussi du dimanche. C'est-à-dire, voilà, donc c'est un jour très particulier. Mais je ne rentre pas dans le détail. Et le dimanche, donc c'est le jour du Seigneur, le premier de la semaine, toujours, comme il est dit dans l'Évangile, le premier jour de la semaine, et c'est en même temps le huitième. Et ce jour-là, donc, systématiquement, les chrétiens se rassemblent pour célébrer donc, la résurrection du Christ. On célèbre tous ensemble la liturgie eucharistique, qui nous amène, comme je vous avais dit, donc au royaume de Dieu, qui nous fait participer au banquet éternel du royaume de Dieu, auquel nous participerons donc à la fin des temps, hein, à la fin de notre temps. Et voilà, donc c'est le jour chrétien par excellence, le jour du Seigneur. Le jour de la résurrection. Et ça, donc, dans l'octoèque, c'est un office systématiquement avec vigile, cette fois-ci. Autant les jours de la semaine, ce sont des jours non festifs dans l'octoèque. Par contre, donc, l'octoèque prescrit la vigile de samedi soir. Donc, c'est une célébration qui dure toute la nuit, normalement, la vigile, avec la liturgie eucharistique en suivant. Chez les Slaves, cette pratique de l'office toute la nuit a été interrompue et donc on célèbre la vigile le samedi soir et on célèbre la liturgie dimanche matin. Dans les monastères grecs, ils ont gardé cette tradition de l'agrypnie, c'est-à-dire d'un office qui commence vers 10 heures du soir et qui se termine le matin par la liturgie. Agrypnie et vigile, c'est pareil, c'est la même chose. Et donc, nous avons le troisième cycle qui est le cycle d'Éménée, c'est-à-dire le cycle annuel. Donc chaque jour de l'année, au fil du temps, eh bien, on a commencé à célébrer les saints, les grandes fêtes, Noël, l'Épiphanie, etc. Et finalement, chaque jour, nous célébrons un saint. Et donc, nous avons des livres qui s'appellent les Ménées. Nous avons un méné par mois. C'est pour ça qu'on appelle les ménés. Il y a 12 livres des ménés.
Méné. N-E-S. Une ménée.
je ne sais pas. Parce que peut-être en grec, c'était... En grec, c'est féminin, certainement. Hein. Il n'y a pas d'autre explication. Voilà. Et alors, pour compliquer un petit peu l'affaire, donc, tous les saints ne sont pas égaux liturgiquement. Ils le sont, bien sûr, devant le Seigneur, mais pas pour les hommes. C'est-à-dire que on a défini des degrés de festivité pour les saints. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 degrés. Donc, le plus bas, c'est celui qu'on appelle... Donc là, vous avez ça dans les... Dans les vêtres. Hein. Donc, je vous invite à prendre cette feuille qui indique les différents types de vêpres en semaine suivant l'office des Ménées. Où là, on voit les différents types d'office suivant le degré de festivité. Donc, vous avez. Enfin, bon, oui, il y a l'office non festif et l'office assistichère qui sont identiques. La différence, c'est que un office non festif a trois stichères au psaume du lucernaire. Alors que un saint assistichère a les six stichères au psaume du lucernaire. Donc, si un saint n'a que trois stichères, à ce moment-là, on commence par trois stichères de l'octoèque et trois stichères du saint. C'est ce qui va se passer tout à l'heure à nos vêpres. Vous ferez attention, on commence par le ton 5, qui est le ton de la semaine. Nous sommes dans le ton 5. Donc, nous allons chanter trois stichères de l'octoèque. Et ensuite, nous allons passer aux stichères du saint. Des Ménées qui ont leur propre ton. Donc, dans les Ménées, chaque stichère, on indique le ton sur lequel il faut chanter le stichère. Ensuite, vous avez un office pour un saint à grande doxologie. Donc, la grande doxologie, ça concerne déjà les matines. À la fin des matines, nous avons une doxologie. Donc ça, c'est à la fin des matines. Donc il y a deux cas possibles. Soit c'est une petite doxologie qui est lue, soit c'est une grande doxologie, à ce moment-là, elle est chantée. Donc pour ces trois types d'offices, on combine l'octoèque avec les Ménées, c'est-à-dire que on enlève des textes de l'octoèque pour mettre à la place des textes des Ménées. Et enfin, vous avez alors des offices qui sont plus festif, des offices pour un saint avec polyéléos. Donc ça aussi, ça concerne les matines. Donc en matine, on a soit polyéléos à ce moment-là, il y a même lecture de l'évangile pendant les matines. Donc le polyéléos débute une séquence qui contient la lecture de l'évangile et des stichères après. Donc là, ça rallonge beaucoup les matines. Mais il y a quand même séparation entre vêpres et matines. Et le dernier stade, donc ça, c'est office pour un saint avec vigile. Donc là, certains savent quel saint a un office avec vigile.
Saint Nicolas,
voilà, ça c'est un exemple. Saint Nicolas, qui est célébré le 6 décembre, a un office avec vigile. Il est connu donc de ceux qui habitent à Nice, parce qu'il y a la cathédrale Saint-Nicolas. À ce moment-là, voilà, et bien là, on a un office qui inclut, qui imbrique les vêpres et les matines. Les vêpres et les matines s'enchaînent automatiquement. Donc là, ça fait un grand office qui devrait durer plusieurs heures et que l'on raccourcit généralement à 2 heures, à peu près. Et donc, c'est ce qu'on fait systématiquement le samedi soir. Donc ça, c'est l'office le plus complet, le plus... Et donc, pour l'office avec saint, avec polyéléos, ou saint avec vigile, en semaine, on ne chante plus rien de l'octoèque. Tout vient, tous les textes sont issus des ménés. Sauf le dimanche, où là, bien sûr, le fait qu'on chante la vigile vient de l'octoèque. Donc là, c'est l'octoèque qui prime le dimanche. L'octoèque est en premier le dimanche et le saint vient après. Donc voici grosso modo les différents types de... Donc nous avons célébré pour l'instant des offices simples. Donc nous avons suivi exactement les schémas pour un office non festif ou assistichère, donc qui se trouve sur la partie gauche de vos feuilles. Donc si on revient aux vêpres, vous voyez que l'office commence par une bénédiction du prêtre. Chaque office commence par une bénédiction du prêtre. Et cette bénédiction est différente s'il s'agit des vêpres, des matines, de la vigile ou de la liturgie eucharistique. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les prières initiales, qui vont de « Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, roi céleste, consolateur », jusqu'au « Notre Père ». Donc ça, c'est ce qu'on appelle les prières initiales, qu'on célèbre normalement au début de chaque office. Après l'ekphonèse, après le « Notre Père », donc le lecteur dit « Amen », Kyrie eleison 12 fois. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Et puis, venez adorons. Venez adorons. Et au vêpres, on commence à lire le psaume 103. Donc, ça, à chaque vêpres, soit on lit, soit on chante le psaume 103. Donc c'est une caractéristique des vêpres. Et ce psaume est appelé le psaume de la création. Donc ce psaume raconte un peu comment Dieu crée le monde. Donc c'est lié au fait qu'on commence la journée. Donc on commence et toujours l'Église nous rappelle l'essentiel. L'Église est là pour nous rappeler l'essentiel. Donc l'essentiel, qu'est-ce que c'est ? C'est notre salut. L'Église nous parle que de notre salut. Pourquoi ? Parce que le Christ est venu nous apporter le salut. Voilà. Et Il n'y a pas d'autre rôle à l'Église que de nous rappeler tout le temps ce salut. Donc Dieu a fait les choses bonnes. C'est l'homme qui a failli par sa volonté, mais Dieu ne l'a pas laissé. Il le savait que l'homme avait pouvoir de faillir. Et il est allé, il a assumé cette défaillance et il l'a assumé jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort sur la croix, l'incarnation et la mort sur la croix. Et il nous donne par là le royaume éternel, le royaume des cieux, en communion avec la divinité, pratiquement sans plus possibilité de renier, quoi, hein. Ce sera, il y aura un jugement dernier, et ceux qui seront acceptés à ce moment-là vivront avec Dieu éternellement. Et donc on commence par la création. Tout commence par la création du monde. La création du monde se fait par Dieu, parce que Dieu est amour. Donc Dieu crée le monde par amour. Donc c'est un trop-plein d'amour chez Dieu qui fait que Dieu crée, mais il ne crée pas simplement, il crée l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc c'est ça qui est important, c'est que nous avons en nous l'image de Dieu, et en ce sens, nous sommes complètement libres. Donc, l'amour de Dieu, c'est un amour qui nous laisse complètement libres. On ne peut pas imaginer une création de l'homme sans liberté. Parce que s'il n'y a plus liberté, il n'y a plus amour. Hein? L'amour et la liberté sont intimement liés ontologiquement. Hein? Ontologiquement, ça veut dire au moment de la création, hein, au fondement. C'est ça qui a fait notre perte, finalement, parce que l'homme a usé de cette liberté et a rejeté à un moment Dieu en désobéissant à Dieu. Mais cette ressemblance aussi et cette image donne la possibilité à Dieu de s'incarner et de nous faire participer à sa divinité. Donc nous chantons au départ la création bonne de Dieu. C'est le psaume 103. Après, nous avons une grande ecténie de paix à la fin de la lecture du psaume 103 ou du chant du psaume. On a systématiquement, au début de chaque office, une grande ecténie de paix. Alors ça, c'est aussi une fonction de l'Église. La fonction de l'Église, c'est, comme la fonction de l'homme, c'est de prier pour le monde. Nous sommes les prêtres qui devons prier et devons apporter le monde à Dieu. Nous sommes les prêtres de la création. Donc nous prions pour le monde, nous prions en paix, prions le Seigneur. Et après, le prêtre dit, pour la paix du monde et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Donc nous prions, nous portons en nous, le monde, et c'est pour ça que quand l'homme a chuté, eh bien, il a entraîné le monde avec lui, dans la chute. Et ça, nous devons le garder en mémoire. Et nous devons donc penser au monde, toujours, et prier pour lui. Lui demander pardon et prier pour lui.
Le monde, c'est les hommes ou c'est la création ?
Quand je dis le monde, je parle de la création, hein, je parle du cosmos. le monde dans le sens cosmos, c'est-à-dire toute la création. Quand je dis monde, c'est cosmos. Ben, l'homme y compris, puisque l'homme est l'aboutissement de cette création. Hein. L'homme est l'aboutissement de cette création. Il est placé au-dessus comme responsable de cette création. Et c'est pour ça que je te dis que quand l'homme chute, eh ben, il entraîne avec lui tout le monde créé. Donc nous prions. En fonction de l'Église, c'est aussi de prier pour le monde. Donc on prie pour le monde. Après cette grande ecténie, où on chante « Kyrie eleison »,« Seigneur ait pitié », donc c'est pour ça que moi, je chante à l'office, même s'il n'y a pas de prêtre, je chante des « Kyrie eleison ». Hein. C'est pour marquer notre prière pour le monde, parce que bon, on ne va pas remplacer le prêtre, on ne va pas dire, mais en chantant « Kyrie eleison », on participe à cette prière pour le monde. Ensuite, vous avez la lecture du psautier, donc les fameux catismes. Donc c'est à ce moment-là que nous allons chaque jour lire un catisme qui fait partie donc, de ces fins catismes que nous allons lire pendant toute la semaine. D'accord ? Donc cette lecture se place à ce moment-là des vêpres. Donc le samedi soir, comme c'est le début de la semaine, nous chantons le premier catisme. Et si vous regardez un psautier, vous verrez que « Bienheureux l'homme », ce sont les premiers mots du premier psaume, du premier catisme. Donc et le samedi soir, on chante. Pourquoi on chante ? Parce que l'office doit durer toute la nuit. Et donc, il faut rallonger l'office. Et donc, au lieu de lire, on chante. Et parfois, le chant dans les monastères grecs, au moins à Tos, ce chant peut durer plus d'une heure. Le chant du psaume 103. Pour la fête du monastère, ils prennent... ils ont la possibilité donc, de chanter tellement, je veux dire, orné en byzantin que ça peut durer plus d'une heure.
Pardon ? Justement, dans le chant des indiques, le texte, on l'a pas assez.
Ah ben, ouais. Ben, on l'a moins, mais...
Ouais, on l'a moins,
mais bon, c'est... Pour ceux qui aiment le chant byzantin, c'est...
Oui.
Moi, j'aime bien et donc, moi, je me régale. Oui.
Il n'y a pas d'équivalent dans le monachisme
slave ? Non, parce que je vous ai dit qu'on a perdu cette habitude de faire des vigiles qui durent plusieurs heures. Donc, même dans un monastère, la vigile va durer 3 heures maximum, d'accord ? 3 heures, 3 heures et demie. Et donc, le catisme, là, on le chante, mais jamais plus d'un quart d'heure. Quoi, hein. Jamais. Voilà. Mais on a d'autres endroits où on va rallonger. Enfin, voilà. Le polyéleos, par exemple, on va rallonger un petit peu, mais comme les Grecs aussi. Mais de toute façon, les vigiles chez les Slaves ne durent jamais aussi longtemps que ça peut durer dans un monastère grec le jour de la fête du monastère. Donc une fois qu'on a fini la lecture du psaume, donc soit il y a une petite litanie, soit il n'y en a pas, ça dépend du degré de festivité du saint. Donc c'est là où déjà... Donc si on a un office non festif ou assisticher, eh bien, il n'y a pas de petite ecténie. À partir d'un office avec grande doxologie, on place une petite ecténie après le catisme. Donc ça fait déjà une petite différence. Donc ça rompt la monotonie. Non. Alors, un catisme, alors, je pensais que tout le monde savait ce que c'était, mais, donc, dans le psautier, tu as combien de psaumes ? 150.
151,
je crois. Non, 150. Liturgiquement, il y en a 150. Il y en a un 151e, mais on ne le lit jamais. Et donc, ces 150 psaumes sont répartis en 20 catismes. C'est-à-dire, il y a, grosso modo, je ne sais pas, 6. 6 fois 2, 12, donc 7 fois 2, 14, donc en, grosso modo 7, 8, enfin bon, ça dépend, hein, c'est, parce qu'il y a un catisme qui comprend uniquement le psaume 118, hein, c'est le 17e. Le psaume 118 est tellement grand qu'il prend la place d'un seul catisme. Et en plus, chaque catisme est divisé en 3 stances. Donc chaque stance stance contient 2 ou 3 psaumes. Et à la fin de chaque stance, vous avez ce qu'on appelle un gloire, pour parler techniquement. Donc c'est pour ça que vous remarquez qu'on lit et quelqu'un arrive à gloire. Il dit gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Là, il s'arrête, tout le monde se lève. Et on chante, et maintenant, et toujours, et pour les siècles des siècles, amen. Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu. 3 fois. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et le lecteur continue. Nous, on change de lecteur, mais bon, c'est pas obligé. Le lecteur continue, et maintenant, et toujours, et pour les siècles des siècles, amen. Et on recommence la lecture d'une stance. Et ainsi, 3 fois. Et à la fin de la 3e stance, le lecteur dit lui-même « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, etc. » Et là, ça clôt le catisme. D'accord ? Donc ce soir, c'est ce qu'on va faire. Donc ça va clore le catisme. Et on commence après le lucernaire. D'accord ? Et donc, ça, c'est pour une lecture continue, comme je vous avais dit, du psautier, pendant toute la semaine, c'est-à-dire qu'on commence par le premier catisme le samedi à la vigile que l'on chante, et ça se termine le samedi, vendredi samedi, avec le 20e catisme. C'est un peu différent, mais bon, vous verrez si vous regardez. Enfin, en gros, dans toute la semaine, on a lu entièrement le psautier, à ce moment prévu pour la lecture des catismes. D'accord ? C'est compris, ça, ou non ?
Non, parce que pour moi, c'est pas clair. Je ne comprends pas la différence entre un catisme et un psaume.
Alors, si. Non, non. Attends.
Il peut y avoir 2 sens à catisme. Peut-être claque et ceci.
Non, je
ne
sais pas du tout ce que ça veut dire.
Non, alors... Si vous permettez, je vais répondre. Marina, je peux ? Donc, le psautier contient des psaumes, d'accord ? Il y a 150 psaumes, voilà. Et il y a 20 catismes. On répartit, donc il y a, après, on met 7 psaumes dans le premier catisme, 7 dans le... Donc, un catisme contient un certain nombre de psaumes. Hein ? Et les 20 catismes contiennent les 150 psaumes.
D'accord.
Du premier au 151, au centième. D'accord ? Voilà. Et ces catismes sont répartis dans la semaine. Donc le samedi soir, c'est le premier. Au matin, c'est 2 et 3. Dimanche soir, il n'y a pas de catisme. Le lundi au matin, c'est 4 et 5. Mardi au vêpres, c'est 6. Donc aujourd'hui, on est quoi ? Non, lundi soir, c'est 6.
Mardi
matin, c'est 7 et 8. Donc mardi soir, c'est 9. Donc ce soir, nous allons lire le 9e catisme. Et t'iras regarder ce que c'est que le 9e catisme ce soir, tout à l'heure, en haut, à la chapelle. D'accord ? Pour comprendre ce que c'est.
C'est dans le livre des psaumes.
C'est dans le livre des psaumes. Ce qu'on appelle un psautier. Voilà.
C'est pas dans le...
Non.
C'est pas dans...
Non, non.
Non, non.
Si on a une Bible avec l'Ancien Testament, les psaumes...
Ah, ici, ils sont là.
Ah, si, 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 ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, mais ils sont... Ils ne sont pas répartis en catisme. On a ce qu'on appelle un livre particulier, un psautier liturgique, où c'est réparti ou avec les gloires, où il faut. Et voilà, donc c'est pour la lecture, d'accord ? C'est pour l'utilisation liturgique du psaume. Mais bien sûr, dans la Bible, on a tous les psaumes qui sont là, à la suite les uns des autres. À la fin de chaque stance, tu as gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 trois fois. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Voilà. Et après, et maintenant, on continue. Bon. Donc, je vous rappelle que les psaumes est une prière primordiale pour l'Église, qu'au début du christianisme, le psautier était extrêmement utilisé. Hein. C'était normal parce que Jésus-Christ lui-même utilisait les psaumes. Donc, on en parle dans l'Évangile. Hein. Après la lecture, après le chant des psaumes, Jésus fit ça. Donc c'était la prière des Hébreux, des Juifs, et l'Église a gardé, mais bien sûr, donc, comme pour tout l'Ancien Testament, les chrétiens ont une nouvelle vision. On n'a pas la même vision que les Juifs de l'Ancien Testament. Nous avons une vision chrétienne. Nous comprenons tout ce qui était annoncé, ça concernait le Christ. Nous comprenons que les psautiers, c'était la prière même du Christ. Hein? Donc je vous rappelle, quand on lit le psaumier, je fais ci, je fais ça, eh bien c'est le Christ qui parle, c'est le Christ qui parle. Hein? Et quand il dit tu, à ce moment-là, ce sont les hommes. Hein? Ou le peuple d'Israël. Voilà, donc... Et l'ennemi à combattre, notre seul ennemi, on parle beaucoup d'ennemis dans les psaumes, hein. L'ennemi, c'est Satan, c'est le diable, d'accord ? Qui, lui, est notre seul ennemi et qui nous empêche qui veut nous empêcher de nous tourner vers le Christ, hein. Donc lui, ça le met en colère. Voilà, donc les psaumes, et donc, c'est pour ça qu'à chaque office, nous, dans les stages, et si vous faites des vêpres dans vos paroisses, je vous conseille de faire la lecture du psaume comme on le fait au stage. Si c'est des vêpres ou matines, au moment prévu, faites une lecture d'un catisme. Oui, c'est ça, oui.
Il n'y a pas du tout ce côté... Pourtant, on chante beaucoup, mais on chante le Christi cher.
Mais les Juifs continuent toujours chanter les psaumes.
Qui ?
Les Juifs continuent.
Ah oui. Mais nous aussi, on chante les psaumes. Attends. Oui, on ne fait que ça, chanter les psaumes.
Oui, mais on ne chante pas le catisme.
On ne chante pas le catisme, parce que le catisme, sa particularité, c'est qu'il n'est pas chanté. C'est qu'il est lu. Mais on n'arrête pas de chanter les psaumes. Donc on chante les psaumes. Sauf le catisme.
Et le psaume 118 du monastère de Rodancourt, on le chante. Et Nectarine l'a chanté avec les sœurs en intercalant le verset.
Donc chanté, la première, donc le premier, c'est le psaume 103, on chante au début des vigiles. On chante les psaumes du lucernaire, on chante le polyéléos, qui sont des psaumes, on chante les psaumes des laudes, et on peut continuer comme ça, la liste qui est très grande. On chante les psaumes, on n'arrête pas de chanter. Nous, on chante. Les psaumes. Il y a un moment où on ne chante pas, c'est les catéchismes, parce que c'est lu, parce que c'est prévu d'être lu par... c'est une lecture qu'on fait. Exceptionnellement, prévu à cet effet, c'est exprès qu'on fait ça. Donc après la lecture du psautier, du catisme, on passe à la séquence de ce qu'on appelle le lucernaire. Alors, le lucernaire, ce sont quatre psaumes donc, qui nous viennent encore une fois aussi de l'Ancien Testament, qui sont ce qu'on appelle des psaumes du soir. Donc on a toujours ces deux façons de chanter les psaumes. Soit on les lit en continu pendant toute la semaine, donc on déroule comme ça, soit pour chaque moment on a des psaumes. Les psaumes du lucernaire, les psaumes des laudes, etc. Le polyéléos qui a sa place, le psaume 50 qui a sa place. Donc là, ce sont des psaumes qu'on retrouve tous les soirs. Ce sont les psaumes du lucernaire. Alors, qu'est-ce que représentent ces psaumes du lucernaire? Donc, ils commencent comment déjà? Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu la chute entre la création... et le lucernaire, il y a eu la chute. Et donc, ces psaumes du lucernaire, c'est le chant de l'homme qui appelle Jésus et Dieu pour qu'il le sauve. Donc, c'est notre condition déchue que l'on exprime là. Et là, maintenant, on commence à comprendre tout l'enchaînement. On est au coucher du soleil et on rentre dans les ténèbres. Donc ça, c'est un grand thème liturgique de l'eau et de l'Église. La lumière, c'est le Christ et les enfers, c'est les ténèbres. Et toute l'histoire du salut se résume à la victoire de la lumière sur les ténèbres. À la fin, il n'y a plus de ténèbres, il n'y a que la lumière. D'accord? Et donc là, c'est voilà, on va vers la nuit, hein, on chante la création, et on va vers la nuit, et on est dans notre... La nuit représente notre état de pécheur, notre état déchu. Et c'est pour ça que les moines prient la nuit. C'est parce que, eh bien, c'est la nuit que nous sentons que nous sommes dans cet état et que nous devons prier pour que Dieu nous sauve. Et donc la vigile, la veille pour le moine, est quelque chose de très important. Le moine prie la nuit. Bien sûr, pour nous qui sommes vivants dans le monde, la prière la nuit est très difficile. C'est pas possible parce que nous devons après travailler. Donc nous ne pouvons pas, nous. Mais... les moines existent pour justement nous dire que fondamentalement, eh bien, la prière, c'est une prière nocturne. Et c'est pour ça qu'on célèbre la vigile. Et du temps des premiers chrétiens, ils faisaient effectivement la vigile, ils passaient leur temps à prier la nuit. Le samedi soir, ils se rassemblaient et ils passaient la nuit en prière. Donc, l'histoire de la vigile du samedi, entre samedi et dimanche, remonte au temps des premiers chrétiens. Et au fur et à mesure, ce ne sont que les moines qui ont gardé cette fonction de prier la nuit. Hein. Ils prient la nuit pour les autres. Donc il ne faut jamais dire que les moines ne servent à rien. Au contraire, les moines sont le cœur de notre monde, de notre monde, du cosmos, parce que c'est eux qui assurent cette prière. Ceux qui assurent cette prière et qui font tenir, qui empêchent que le monde se désagrège. Et lorsque cette prière n'existera plus, malheureusement, c'est ce vers quoi on tend, eh bien le monde va se désagréger. Et ça sera la fin des temps. Mais on n'y est pas encore rassuré. Mais bon, on y vient. Voilà, donc ça c'est la séquence des psaumes du Lucernaire. Alors, ce qu'il faut dire quand même au fil du temps, c'est que ce thème de « Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi » au fil des siècles a été remplacé par les thèmes des stichères. Donc nous, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire le Lucernaire ? Maintenant, c'est le chant des stichères, d'accord ? Et donc ce thème a été remplacé soit par le thème de l'Octoek, les deux thèmes de l'Octoek, soit par le thème de la fête. Donc il n'y a que « Seigneur, je crie vers toi » et ces deux versets du premier psaume qui nous mettent en relation avec ce thème. Maintenant, nous chantons des stichères. Au lieu de lire des psaumes et de chanter des psaumes, nous chantons des stichères. Et donc l'ordo nous dit combien de stichères il faut chanter et où est-ce qu'il faut les prendre. À la fin de la séquence des stichères du Lucernaire, il y a toujours un théotokion. Qu'est-ce que c'est un théotokion ? C'est une hymne à la Vierge. Hein, voilà, c'est un stichère à la gloire de la Vierge. À chaque fin de séquence de stichère ou de tropère, l'Église nous demande de chanter systématiquement un théotokion. Donc la prière à la Mère de Dieu ne nous quitte pas. C'est elle, c'est notre première intercession. Vous avez compris ? Et c'est elle qui est sainte par excellence. J'ai à tel point que, eh bien, elle est déjà ressuscitée. Son corps est déjà ressuscité. Mais ça, c'est compréhensible. Hein? Puisqu'elle a cueilli en elle la divinité. Donc, elle a été déjà divinisée. Elle a incarné en elle le Dieu. Et donc, de ce fait, elle est complètement divinisée et complètement sauvée déjà. Grâce à son humilité. Et donc, notre rôle à nous, c'est de suivre cet exemple. Donc, nous devons suivre l'exemple de Marie, qui est un exemple pour toute l'humanité. Et nous devons, et nous la prions constamment. Nous la prions constamment. Et chez soi aussi, il faut bien penser à prier Marie. La mère de Dieu, la Théotokos en grec. C'est pour ça que le stichère s'appelle le Théotokion.
Et ça, comment
ils
appellent ça ?
Comment ? Bagarodichin.
Ah.
« Après le chant donc, du Théotokion qui termine cette série du lucernaire, on passe au chant. Donc dans l'office non festif, il n'y a pas de petite entrée. Donc le prêtre ne sort pas, il reste à l'intérieur du sanctuaire et il annonce « Sagesse, tenons-nous droit ». Et on chante une hymne qui est très ancienne et qui s'appelle « Lumière joyeuse ». En grec, « Phos hilaron ». Phos hilaron. Et en slavon, Svete Tihi. Donc, il y a chaque langue à sa nuance. Puisque le slavon dit Svete Tihi, ça veut dire lumière douce. Lumière douce. À la place de joyeuse, j'aurais mis en français lumière radieuse. Svetitihi. Et donc, pourquoi on chante ça? Eh bien, justement, parce qu'on est exactement au coucher du soleil. Et à ce moment-là, nous pouvons presque regarder le soleil. Or, le soleil, vous savez que c'est le symbole du Christ. Le soleil de justice est le symbole de la Trinité aussi. Dans ce sens que Dieu le Père, ce serait le soleil, les rayons, ce serait Dieu le Fils, et la chaleur, ce serait l'Esprit Saint. Bon, enfin, ça, c'est... Mais c'est surtout un symbole du Christ qui nous apporte la lumière. Et au coucher du soleil, eh bien, le soleil se fait voir. Et ça, c'est le symbole de l'incarnation du Christ, et donc de notre salut. Et c'est la réponse au psaume du lucernaire. Donc, l'homme prie le Dieu de le sauver, et la réponse, c'est l'incarnation de Jésus. D'accord ? Donc, pour l'orthodoxie, pour nous chrétiens, la croix est toujours liée, comme je vous ai dit, à la résurrection. C'est une résurrection de 3 jours. Vendredi, c'est déjà la résurrection. D'accord ? Et nous sommes déjà sauvés. Et nous chantons donc « Lumière joyeuse ». Ça pourrait être même la fin des vêpres. Mais on continue par des lectures normalement. Mais ces lectures ont été abandonnées. On n'a plus que le prokyménon. Qu'est-ce que c'est un prokyménon? C'est un verset de psaume que l'on chante avant des lectures. Prokyménon, ça veut dire « placer avant ». Donc, encore un exemple de psaume chanté, c'est le prokyménon. Et là, les lectures n'ont lieu qu'à partir de l'office avec Polyéleos. On lit 3 parémies, ce qu'on appelle, ce sont des lectures de l'Ancien Testament, qui ne sont plus faites les jours ordinaires. Je viens de dire avec Polyéleos, hein, donc écoute un petit peu ce que je dis.
Même pendant les carrés, on n'était pas ces lectures en
fait. Si, pendant le carême. Pendant le carême, on le fait. Oui, c'est si, pendant le carême, au vêpres, il est prévu systématiquement 2 lectures. Ce n'est pas des parémies, c'est des lectures de l'Ancien Testament. Continue aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Isaïe et les Proverbes, je crois.
Avant Noël, c'est Isaïe.
Hein ?
Avant Noël, c'est Isaïe.
Non, mais là aussi, c'est le livre dit. Il faudrait regarder, je ne sais plus exactement. Mais on lit l'Ancien Testament pendant le carême, oui, oui. Le grand carême. Et après ce prokiménon, on récite la prière « Daigne Seigneur nous garder ce soir sans péché », donc qui est une prière lue, très ancienne aussi, et qui normalement est lue par l'igoumène du monastère même, donc la personne la plus haute hiérarchiquement, qui lit cette prière, qui est dans le livre des heures, parce que donc c'est une prière qui fait partie de l'ossature des vêpres. Ensuite, nous avons une ecténie des demandes. Donc, c'est une ecténie spéciale où les demandes se terminent par « Demandons au Seigneur » et la chorale, au lieu de dire « Kyrie eleison », chante « Accorde Seigneur ». Donc, ce sont des demandes que l'on adresse à Dieu. Il ne faut pas croire qu'il ne faut pas demander. Hein? La prière de demande fait partie de notre prière. Il y a la louange et il y a la demande. Et si nous avions un petit peu de foi, gros comme un grain de senevé, eh bien notre prière serait exaucée. Mais par manque de foi, eh bien souvent, nos demandes ne sont pas exaucées. Ensuite vient la série des stichères, des apostiches. Alors c'est encore une autre série d'apostiches qui ont été créées au fil du temps, et donc que l'on met ici, à la fin des vêpres, qui ont donc rapport soit avec le thème de l'octoèque, soit avec le thème du saint, d'accord ? Donc il n'y a rien de spécial à dire que c'est le chant de Sticher.
Pardon, qu'est-ce que c'est une liti ?
Une liti, alors liti, c'est fait très rarement, c'est fait uniquement pour les 12 grandes vêpres, justement. Alors c'est qu'est-ce qui se passe ? C'est après cette ecténie de demande, eh bien, dans les monastères, il se trouve qu'il y avait une procession à ce moment-là. Alors, je ne sais plus pourquoi elle était faite, mais les moines sortaient de l'église et ils partaient en procession. Alors, je ne sais pas, peut-être pour vénérer, je sais pas, pour vénérer quelque chose, je ne sais pas. Mais enfin, en tous les cas, ils sortaient.
Oui.
Donc la liti, c'est une procession.
D'accord.
Donc on fait des prières aussi. Ah oui, alors maintenant, c'est resté comme une prière pour le monde. On sort dans le monde, pour prier dans le monde. C'est ça le sens symbolique maintenant que l'on a gardé de la liti. On sort pour prier pour le monde. Alors maintenant, comment ça se passe dans les paroisses ? Vous avez peut-être remarqué qu'au lieu de sortir hors de l'église, le prêtre va tout simplement à l'entrée de l'église. Il se tient à l'entrée de l'église. Voilà. C'est ce qui est resté de cette procession qui existait avant. Et donc là, il y a des grandes prières, pour justement aussi pour les saints et pour le monde. Donc c'est une prière adressée au monde. D'accord. Et à la fin, on va voir qu'il y a bénédiction des pains qui est liée à cette liti, mais c'est fait pour les vigiles principalement, et c'est ce que mangeaient les moines la nuit. Après, on distribuait ces pains aux moines, et donc ils se nourrissaient pour pouvoir rester éveillés et prier toute la nuit. D'accord ? Voilà. Mais ça se fait maintenant très rarement chez nous, sauf dans les grandes fêtes, je te dis. Chez les Grecs, pas chez les Slaves. Pas chez les Slaves. Non, 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 non. Les slaves, elle est là au début des vêpres, hein, l'icône. Mais peut-être que pendant les litis, les Grecs, je crois, ils sortent l'icône de la fête. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, oui. Exactement, oui. Et après ces stichères des apostiches, eh bien, nous lisons le cantique de Siméon. Voilà. Maintenant, maître, tu laisses aller en paix ton serviteur selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui se révèle aux nations et gloire de ton peuple Israël. Donc c'est déjà le début de la fin, là. Ensuite, on fait Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel jusqu'à notre Père. Le prêtre dit l'ekphonèse. Ekphonèse, ça veut dire « Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. » Et la chorale chante « Amen » et elle chante le tropère du saint. Donc chaque saint a un tropère qui, en une courte phrase ou quelques phrases, donc résume pourquoi ce saint est glorifié. Donc chaque saint, normalement, a un tropère. Et après ce chant du tropère, donc c'est le tropère du jour, hein, il change tous les jours celui-là, hein, on chante gloire et maintenant avec un théotokion, apolitikion, turbinokon, apolitikion. Ça veut dire final, qui se termine. Donc c'est un tropère, c'est un théotokion qui se chante sur le ton des tropères. Et dans le même ton que le tropère. Ensuite, on a une ecténie instante. Aie pitié de nous, ô Dieu, selon ta grande miséricorde. Et là, on chante trois fois Kyrieleison. C'est pour ça qu'on appelle instant. On chante trois fois Kyrieleison. Donc, c'est on insiste, voilà. On insiste lourdement. Et ensuite, finale et congé. Donc, finale, ça commence par le prêtre dit sagesse. Nous, on chante donne la bénédiction, que soit béni notre Dieu, etc. Donc, amen, affermi au notre Dieu, la sainte foi des chrétiens orthodoxes, cette communauté, ta sainte église ainsi que cette communauté, pour les siècles des siècles, amen. Très sainte mère de Dieu, sauve-nous. Toi, plus vénérable que les chérubins, etc. Kyrieleison, Kyrieleison. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Donne la bénédiction. Et il donne la bénédiction finale. Et là, on chante Amen. Et on chante Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison. Très sainte mère de Dieu, sauve-nous.
Saint.
L'usage slave.
L'usage slave, pardon.
T'as vu dit quoi?
J'ai dit russe.
Ah oui, oui. Oui, c'est russe. Oui, oui, c'est russe.
T'as dit quoi? Parce qu'on a parlé d'instant. À la fin, quand vous dites très sainte mère,
oui, c'est ça. Oui, 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 c'est. Et on cite aussi le saint de la dédicace.
Ah oui. Hein, voilà.
Comment? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui.
Le saint de l'église. Le saint qui a
Le saint auquel l'Église est dédiée, c'est la dédicace.
Oui, voilà. Le saint, c'est Jésus.
C'est la résurrection.
Voilà.
Donc vous, vous dites rien. Voilà. Et comme ça se termine l'office des vêpres. Est-ce qu'il y a des questions sur cette vêpre?
Moi, j'en ai une. Où est-ce qu'on trouve de façon précise, pourtant, sur tout le monde, la traduction des textes des Véné, de l'Octoèque, etc. Parce que je me suis aperçu que j'ai l'Octoèque à la maison, j'ai l'Octoèque dans l'ordinateur, et ça fait déjà des textes différents. Et quand je compare avec ceux de la paroisse, c'est encore un troisième texte. Alors, lequel il faut prendre? Où est-ce qu'on trouve
à jour, il n'y en a pas à jour. Il n'y en a pas à jour. Il y a le grand octoèque qu'on trouve là, hein, qui est édité, c'est la traduction de Denis Guillaume.
Oui, c'est celui-là, oui.
Voilà.
J'en ai un autre dans l'ordinateur, c'est pas les mêmes textes.
Et pourquoi? Ça, c'est bizarre.
Il y a des différences.
Ah, comment tu l'as eu, celui-là, alors?
C'était Anaïs Fontana qui l'avait passé.
Tu m'étonnes.
Non, j'ai toute la série, j'ai l'octoèque de Trieux.
Mais parce qu'ils l'ont trafiqué un peu, quoi. Hein,
ouais.
Voilà, donc c'est pour
tu
gardes Denis Guillaume, parce que c'est tout le monde, c'est celui-là qu'on a dans l'ordi aussi, quoi. Hein, c'est celui-là qu'on a.
D'accord.
Donc vaut mieux garder. Enfin bon, après. Si vous l'utilisez en douce là-bas à Belfort, on va pas.
Non, c'est parce que je n'ai pas les mêmes textes qu'à Belfort.
Ah oui, oui, non, il faut utiliser Denis Guillaume pour l'instant, tant qu'on n'a pas une traduction officielle de notre archevêché.
J'utilise ceux d'ordinateur, ce serait plus facile de tirer
Bien sûr. Textes. Mais on a Octoèque.
Le professeur est béni par l'archevêché.
Oui, mais c'est pas l'octoèque, ça. C'est pas l'octoèque. C'est pas l'octoèque. Mais c'est vrai que l'octoèque, dans l'ordinateur, on n'a que celui des dimanches, édité par les Korotkov. Hein? Et la semaine, bon, ça, moi, je l'ai, bien sûr, mais c'est particulier, quoi. C'est des dessous de table.
Parce que j'ai les Ménés aussi, mais c'est pareil.
Ah oui, ben, des Ménés, c'est officiel, ça. Ça, c'est Denis Guillaume. Hein.
Moi, j'avais acheté ça du Père Placide.
Des Ménés du Père Placide.
Oui, c'était lui qui les éditait.
Jamais, non, il a édité un psautier, lui. Oui. Mais pas les Ménés. Hein. Ah, peut-être, oui, mais c'est quelques offices, peut-être. Alors. Mais normalement, tout le monde utilise Denis Guillaume. Il n'y a que lui qui a traduit. Et grâce à lui, on peut utiliser les Ménés et l'Octoèque dans des monastères comme ici.
Et le psautier, dans les paroisses, c'est celui du Père Placide.
Oui. Voilà. Ben oui, il est bien. C'est le seul édité qui est très pratique pour nous parce que c'est un psautier liturgique. Oui, il me semble, hein, je ne sais pas, mais il faut leur demander. Hein.
C'est pas parce qu'il est neuf qu'il est
jeune. Oui, il est 2005.
Il était à Cardamiste.
Il y en avait un qui était. Ils ont corrigé entre-temps.
Il y a eu déjà une réédition, une première réédition. Je ne sais pas s'il est en rupture de stock ou non, il faut leur demander. Je ne sais pas. Parenthèse. Bah oui, bien sûr. Alors, en famille, il y a deux solutions. Tu veux faire un office de vêpres. Mais c'est quand même un office liturgique communautaire. Donc, normalement, l'office de vêpres se fait dans une église. Hein? Alors, chez soi, il y a ce qu'on appelle des livres de prière, où tu as plein de prières, quoi. Hein? Donc, il y a des prières du soir, du matin, il y a des acatistes, le psautier, c'est dur. Non. Ça n'a pas de sens. Non, dans la mesure où effectivement il y a ces livres de prière à utiliser en famille. Donc on peut très bien réciter les prières du soir en famille.
L'office des typiques, qu'est-ce qu'il représente, l'office des typiques en termes liturgiques, en termes voilà, qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qu'il
alors quel objectif des, l'objectif de l'office des typiques. Il y a une question sur l'office des typiques. Alors, l'office des typiques, il est fait pour remplacer l'office de la liturgie lorsqu'il n'y a pas de prêtre. Donc, en gros, c'est beaucoup les prières de la liturgie avec les antiennes. Il y a le credo, il y a des tropères, des kondakia, le Notre Père. Et le psaume 33, je crois. Mmh. Voilà. Donc, en gros, c'est la structure d'une liturgie eucharistique, mais qui n'est pas une liturgie eucharistique, quoi. C'est juste les prières. Donc, parfois, on utilise ça quand il n'y a pas de liturgie, effectivement, le matin, on fait un office de typique. Bon, mais ça, c'est... Je veux dire, c'est un rajout, quoi, ça. Si c'est pour les enfants, c'est pas des prières.
Non, mais des prières, j'en ai, on en a tous. Oui. En fait, on a connu des maîtres proposés à Marie, par Martine Kovalevski, il avait écrit,
c'est pour ça que je connais. Ah oui, oui, non, on n'a pas fait voilà. Ça. Non. Ça n'a pas été. Non.
Alors, les typiques, moi j'ai connu ça beaucoup dans l'église serbe, quand le prêtre a 5 ou 6 paroisses. Et qui fait une fois la liturgie et que dans les autres paroisses il fait des typiques. Parce que, donc c'est un semblant de liturgie avec les lectures, etc. Ouais. Mais il n'y a pas de caisse.
Ouais. Nous on a fait ça à une époque où on n'avait pas. Le dimanche on n'avait pas de prêtre, on faisait ça.
Oui, c'est ça. Oui. C'est un office, en fait. C'est une façon de se réunir.
Absolument.
Et de... c'est une prière liturgique. Oui, oui, non, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, ben je vous libère. Merci pour votre attention.